EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre émission de maturité et d'enseignement. La parole de Dieu est source de vie, c'est notre nourriture. C'est par elle que nous grandissons dans notre relation avec Dieu et nous répandons l'odeur de Christ autour de nous. Cette émission a été conçue pour vous permettre justement de comprendre et d'appliquer intentionnellement la parole de Dieu comme un vrai disciple de Jésus-Christ. Depuis le début de cette semaine, nous avons commencé donc ce sujet à la découverte des caractéristiques d'une église dite vivante. Après avoir parlé de ce que c'est qu'une église locale, on a pris la décision aujourd'hui de démarrer sur ces 12 caractéristiques. Il n'y en a pas que 12. Ce n'est pas non plus dans l'ordre de priorité. Mais on va en étudier 12. On ne va pas étudier 12 aujourd'hui. Aujourd'hui, on va prendre 3 seulement, qu'on va entrer en profondeur et comprendre ce que les Seigneurs attendent de nous. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Il y a moyen de reconnaître une église selon Jésus. Il y a moyen de se dire, sommes-nous toujours dans la vérité? Il y a moyen de regarder une église, il y a moyen en tant que dirigeant d'église de se dire, est-ce que mon cœur et l'œuvre, cette œuvre reste toujours là où Christ voulait que ce soit? Je vous propose des éléments qui, dans la Bible et dans l'histoire de l'église, se sont montrés être de points forts sur lesquels Christ et les apôtres insistaient pour une église locale. J'ai déjà expliqué ce qu'est une église universelle, qu'est-ce que c'est qu'une église locale. Ici, je vais insister sur donc les caractéristiques d'une église locale vivante. Premier point, la simplicité à l'égard du Christ. Alors, je vais vous prévenir que je ne fais pas ces points dans un ordre de priorité, mais je fais juste chaque point vient au moment où on est en train d'apprendre cela. Et je pense qu'en réalité, chacun de ces points est très important. La simplicité à l'égard de Christ. De quoi je veux parler? Lisons ensemble ce texte dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 1 au verset 4. C'est Paul qui parle et on peut ressentir de l'émotion. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 4. Écoutez Paul parler. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. C'est là que ce mot vient paraître. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, et si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous les supportez fort bien. Paul est un peu rempli de d'indignation, de colère, il est confus. Il dit, attendez, supportez aussi que moi cette fois-ci je sois fou, parce qu'apparemment, vous vous accommodez bien avec la folie. Hein. Les gens vous amènent à autre chose, qui n'est pas Jésus, ils tordent l'évangile, ils vous racontent tout n'importe quoi, ils parlent d'un autre esprit, ils vous parlent d'un autre Jésus, ils vous prêchent un autre message, et vous êtes là tout bien, en train d'embrasser ça. Et les choses de la parole de Dieu qui étaient si simples, celles-là vous avez du mal à les recevoir. Paul le dit par exemple dans une autre version, dit « Or, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur à Christ. » Attachement sincère et pur à Christ. La simplicité à l'égard de Christ est l'une des caractéristiques fondamentales d'une église locale vivante. Ça signifie que si tu viens dans cette église, les choses sont faites simplement selon la parole de Dieu. Ça veut dire pas d'artifice inutile, ni dans la façon d'être, ni dans la façon de présenter. Pas de symbolisme compliqué. Là où il y a Jésus, il y a la simplicité. On y sent les êtres humains simples, l'organisation du culte simple. On n'y ressemble pas quelqu'un devenu la gloire de toute l'Église. La simplicité. On s'approche de Dieu sans complexité. On n'a pas l'impression qu'il s'est ajouté entre nous et Christ d'autres étapes. La voie à atteindre Christ devient compliquée. Christ l'a voulu simplement. Il a déjà payé le prix aussi complexe de sa mort à la croix pour que dans son Église, lorsque les gens viennent, il découvre Christ dans la simplicité. Mes frères et sœurs, quand on dit simplicité, ça ne signifie pas naïveté. Ça ne veut pas dire que quand les gens sont simples dans cette église, c'est les gens qui sont un peu comme tombés du ciel. Allô, gloire à Dieu, mon frère, alléluia. Non, Christ est bien clair. Il nous a demandé d'être à la fois vigilants comme un serpent, aussi doux que la colombe. On est colombe et on est serpent. Il faut avoir cette vigilance. La simplicité dont je parle ici, c'est pas non plus une simplicité extérieure. Ça veut dire parce qu'ils s'habillent simplement, ils s'habillent pas en couleurs chaudes, ils ont une tendance d'accoutrement quelconque. Ils s'habillent encore en 21e siècle avec des tenues de 20e siècle pour garder la simplicité. La simplicité non plus, c'est pas de la vieillerie ici. Parce qu'il y a des gens qui pensent que plus vieux c'est, plus simple c'est. Non. Parce qu'on peut être béni par Dieu avec toutes sortes de matériel, mais garder son cœur simple. On peut être une église que Dieu a bénie avec tellement de richesses, mais garder la simplicité. La simplicité dont je parle ici, ce n'est pas non plus la médiocrité. Ça veut dire que vous avez le moyen de rendre le temple du Seigneur propre et d'accueillir et d'accommoder autant de personnes, mais vous dites, ici nous allons être simples, restons ensemble avec la nature. Eh bien, on regarde au coin, c'est rempli d'étoiles d'araignée. Le sol est presque pas lavé, les chaises, on y tombe encore parce que c'est en plastique. On dit, nous aussi, on veut être simple. Le matériel de son, on n'y entend presque rien parce qu'on veut, on veut pas avoir de grand matériel. Nous, on veut simple. Mais quand vous devenez 10 000, 20 000, 5, 3 000, 200, 500, ce nombre-là impose que vous puissiez vous équiper autrement. La simplicité n'est pas à aller chercher là-bas. La simplicité est à chercher dans la façon dont le message de Christ, la vie chrétienne est vécue. Qu'est-ce qui est prêché? C'est Jésus plus, Jésus est, Jésus seul ne suffit pas. Il faut y ajouter quelque chose d'autre. L'accès au salut, l'accès à la présence de Dieu est présenté simplement, sans aucune autre forme d'artifice. C'est Jésus, Jésus seul. C'est l'Esprit, l'Esprit seul. C'est la simplicité de l'Évangile tel que c'est écrit, tel que nous vivons. Pas des artefacts inutiles, pas des symbolismes intimidants où vous arrivez quelque part, vous sentez que là-bas, c'est l'homme de Dieu, l'homme de feu, l'appelé du Seigneur dans la gloire. Quand la chorale sort, vous avez l'impression qu'on vit un rite, une cérémonie d'incantation mystique. Je dois nous prévenir qu'il y a un élément culturel, bien sûr. Les cultures ne se ressemblent pas. Mais dans chaque culture, la notion de la simplicité existe. Si d'une culture à une autre, on a l'impression que c'était simple et complexe, mais à l'intérieur de chaque culture, c'est simple. Et il faut rappeler ici que la culture à vivre, c'est la culture de la parole de Dieu. La simplicité à l'égard du Christ. C'est simplement Jésus. Tu mets tes genoux par terre, tu le pries. D'un cœur sincère, tu le cherches, il se manifeste à toi. Il n'y a rien à ajouter. C'est Jésus, Jésus, Jésus. Pas des tenues, pas d'huile, pas de sel, pas d'autres artifices à mettre autour de la vérité de l'Évangile. C'est Jésus, un point, c'est tout. C'est en Christ que vous découvrez le reste. C'est en Jésus que vous apprenez toute autre chose que vous devez apprendre pour grandir dans votre foi. Premier critère, la simplicité à l'égard du Christ. Pardonnez-moi. Deuxièmement, la louange. Désolé, mon humanité me rappelle bien que j'ai qu'un être humain. La louange puissante. La louange puissante, de quoi je parle ici? Quand on dit l'Église du Christ est reconnue par quoi? Non pas la simplicité seulement de Christ, mais quand on y vient, on est en train de louer Dieu puissamment. Louange puissante ne veut pas dire louange vibrante et bruyante. C'est pas dire qu'on loue Dieu. Dans le culte, il y a tellement de bruit. Vous savez, moi, je viens de Kinshasa, la RDC, et on a beaucoup d'églises en RDC. De fois, vous avez des églises, deux, trois, quatre églises sur la même rue. Hein. Et la spécialité, quelquefois, ce n'est pas seulement en RDC. Je l'ai vu aussi dans d'autres pays où je suis allé en Afrique. Et je suis sûr que ça ne se passe pas qu'en Afrique, dans tous les cas. Vous trouvez des églises où il y a peut-être deux ou trois personnes dans l'assemblée, mais les baffles sont tournées vers l'extérieur. Il y a des baffles, les gens écoutent de l'intérieur, mais d'autres sont tournées vers la ruelle. Et donc, quand on prie, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, le modérateur crie, il parle fort. Et tout le monde qui passe dans la rue et tous les voisins sont dérangés par ces bruits. De fois même, le culte matinal a déjà commencé, ça fait tellement de bruit. Un jour, j'ai demandé à un frère, pourquoi vous avez mis des baffles qui sont tournés vers dehors pendant qu'à l'intérieur, à peine trois personnes? Ils ont dit, nous voulons que les gens entendent le message de Jésus. Et quelquefois, dans ces réunions, vous les entendez dire, bien-aimé, louez le Seigneur, dites Amen, jusqu'à ce que les gens qui sont à l'extérieur l'entendent. Ce n'est pas le bruit qui donne la vie à la louange. Non. La louange, elle est dite vivante parce qu'on y trouve le cœur tourné vers Dieu et le Seigneur présent dans cette louange. Tu es dans une église vivante qui, lorsqu'on se rencontre, on se met à louer Dieu, tu sais reconnaître qu'il est là. Écoutez-moi bien, mes frères. La puissance de la louange, elle n'est pas intrinsèque. Je vais reformuler ça. La louange n'est pas puissante. C'est celui qu'on loue qui est puissant. La louange n'a pas de puissance en elle-même. La réponse et la puissance de la louange vient du fait que celui qu'on loue l'a agréé. Parce que Dieu s'est senti concerné qu'il répond par le feu, qu'il répond par sa puissance et par sa présence. Une église locale vivante, c'est une église qui, lorsqu'on se rencontre dans la réunion pour glorifier Dieu, c'est une louange puissante. C'est-à-dire une louange qui touche le cœur de Dieu, une louange dans laquelle on ressent la présence de Dieu. Pas qu'on a juste vu de belles prestations, les gens ont très bien chanté, l'équipe de louange, alléluia, amen. Ah, c'était bien, c'était beau, mais est-ce que ça vous a permis d'adorer Dieu? Est-ce que ça vous a permis de prendre conscience de la présence de Dieu? Est-ce que ça rapprochait votre cœur au Seigneur au point que vous avez même oublié que vous étiez dans un bâtiment ou que vous étiez dehors? Marc chapitre 14, versets 25 à 26. Je vous l'ai dit en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Vous voyez ça? Même Jésus, avec ses disciples, chantait des cantiques. Il vient de leur dire un moment quelque chose de très fort. Il leur parle de sa mort et de sa résurrection. Mais après avoir parlé des choses aussi importantes, ensemble, ils chantent des psaumes. Ils chantent des cantiques. Jésus et ses disciples chantent des cantiques et ils glorifient Dieu. N'est-ce pas une bonne chose? Si Jésus a chanté, frère, quand vous venez à l'église, vous venez aussi pour chanter, pas pour écouter la chorale chanter. La louange puissante ici, ce n'est pas celle que vous observez, mais celle à laquelle vous participez. Voyons notre texte, Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 4. La Bible dit, « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduira à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'Esprit. Ainsi, vous entretiendrez par les chants des psaumes, d'hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Paul est en train d'exhorter ici les Éphésiens, il dira la même chose aux Colossiens. Il dit, vous vous rencontrez, soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin. Et puisque vous êtes remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chanter des psaumes, des cantiques, des hymnes. Vous voyez ça? Il dit qu'on est rempli du Saint-Esprit, on chante. Une église vivante, c'est l'église où on chante pour être rempli et on chante parce qu'on est rempli. Il y a toujours ce concept de la présence et de la plénitude du Saint-Esprit autour de notre louange. Quand on commence nos louanges, on prend conscience d'être rempli. À la fin de nos louanges, on est rempli. On chante pour être rempli, on chante parce qu'on est rempli. Une église vivante, c'est une église où la louange est puissante. Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 23, versets 25 à 26. Actes chapitre 5, 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Tous les autres prisonniers tendaient l'oreille. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondements. Aussitôt, toutes les portes se trouvèrent ouvertes et les chaînes de tous les prisonniers furent arrachées de leur scellement. C'est le genre de louange qu'on aime bien faire dans nos églises, n'est-ce pas? Je me rappelle plusieurs fois, vous allez dans un culte, on dit, nous allons louer Dieu comme Paul et Silas dans la prison et la prison et les chaînes vont tomber. Ça va être une louange puissante. Voilà. Une église vivante a une louange puissante. Ça signifie que c'est une louange à travers laquelle la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Louange puissante, louange où la présence de Dieu est tangible. Louange puissante, louange dans laquelle chacun participe. Louange puissante, louange par laquelle la puissance de Dieu se manifeste. Paul et ses amis en train de chanter, en train de glorifier Dieu. Boum! Vous savez, des fois, on fait beaucoup de choses dans l'église. Ah, pour rien. Si nous louions tous ensemble le Seigneur, je pense qu'on n'aurait peut-être pas besoin de faire certaines choses qu'on fait à l'église qui servent à rien, en fait. Le problème, c'est que quand les gens viennent à l'église, ils regardent le culte, ils observent, ils contemplent le culte, ils voient les musiciens, ils ne participent pas. Maintenant qu'on a tout fait, vous savez, l'église a tellement facilité les choses. On met les textes, les gens chantent à peine. Les gens voient les textes, ils ne chantent pas. Avant, ils ne chantaient pas, on pensait que c'était à cause du texte. Maintenant qu'il y a des textes, apparemment, ils ne chantent plus d'ailleurs, parce qu'ils voient des textes. Vous savez, nous, au 21e siècle, quels avantages nous avons? Vous avez un chant dont vous avez les textes en temps réel et vous pouvez le chanter avec les musiciens. Je connais d'autres églises qui disent même les cantiques qu'ils vont chanter bien avant. D'autres écrivent déjà sur un petit bout de papier. Quand vous arrivez, vous voyez déjà les textes. Plus on essaie de demander aux frères et sœurs de participer, on dirait que plus on les pousse à la participation, plus ils reculent. Ils disent, regardez, j'ai une question à vous poser. Vous allez à l'église, pourquoi? Si ce n'est pas pour participer. Pourquoi avez-vous quitté votre maison? Pourquoi vous êtes-vous connecté en ligne? Pourquoi vous êtes-vous connecté pour nous regarder? Et vous dites que vous participez au culte? Non, si vous participez, ce qui s'est dit là-bas vous concerne. Quand on parle de glorifier Dieu, glorifiez-le. Quand on parle d'adorer Dieu, participez à cela. C'est pour ça que nos équipes de louanges dans nos églises tendent à chercher des cantiques qui sont plus connus. Parce que si tout le jour, les équipes de louanges chantaient des cantiques nouveaux, on se dirait, je ne connais pas ce cantique. Ils puisent dans les albums connus, des artistes connus dans l'église, par-ci, par-là, dans la francophonie, pour que les gens aient cette tendance à se retrouver face à la louange qui est en train d'être chantée. Dans une église vivante, la louange est vivante. Alors, j'aimerais quand même m'adresser un peu au conducteur de louanges que nous avons à l'église. Ce n'est pas l'enseignement qu'il faut pour ça aujourd'hui, mais juste leur rappeler un petit détail. Autant je rappelais aux frères et sœurs qui viennent à l'église que nous devons participer, répondre à ce qui se passe devant, adorer, participer, s'agenouiller. On ne doit pas attendre qu'on puisse nous dire de nous agenouiller ou de nous prosterner ou de lever nos mains. Exprimons-nous dans la louange, participons à cette flamme. Mais autant je dois aussi dire à mes frères et sœurs, conducteurs de louange, il n'est pas question de vous. Nous ne venons pas à l'église pour vous. Ce n'est pas votre show. Ce n'est pas votre spectacle. Vous êtes là pour servir. Conduire le culte, c'est l'un des services les plus complexes à l'église. Un jour, je suivais une formation et un merveilleux chant de l'Éternel connu dans le monde entier qui a tellement chanté beaucoup de cantiques qui servent à l'église. Vous le connaissez, je suis sûr, Michael W. Smith. Il a dit, conduire le culte, c'est avancer comme la première brebis et les autres brebis vous suivent. Mais plus vous avancez vers le Seigneur, plus vous vous agenouillez, afin qu'ils arrêtent de voir vous et qu'ils voient celui que vous pointez. C'est ça, conduire le culte. D'habitude, je partage avec les conducteurs de culte, je leur dis, conduire le culte, c'est une responsabilité si complexe que on prépare un répertoire, on fait des répétitions, des arrangements, on prépare la tenue à porter ce jour-là. On se maquille, on est propre, on est bien, pour ne pas être vu. La finalité de tous ces efforts, c'est que je diminue et qu'il croisse. On est juste des appâts pour qu'à la première minute, lorsque quelqu'un nous regarde, après se connecte à Dieu. Alors, la louange doit être vivante. Et ça, je voulais quand même rappeler la responsabilité qui pèse sur les épaules de ceux qui conduisent les cultes. Les gens viennent à l'église pour raconter, vivre un temps de louange à Dieu, un temps vivant. Vivant parce que la présence des dieux se manifeste. Vivant parce que chacun y participe à fond. Vivant parce que la puissance de Dieu se manifeste aussi. Pendant la louange, il peut se faire plus de guérison qu'à la fin de la prédication, je vous assure. Alors, une église vivante, c'est une église qui a laissé la place pour la louange, la place pour l'adoration. On ne vient pas juste entendre des belles déclamations. Non, on adore Dieu. On s'est rencontrés pour ça. Rendre ce culte. Ce n'est pas juste une église où il y a tout sauf un temps d'adoration. Des fois, dans certaines assemblées, il y a tellement un temps d'offrande, un long temps de prédication, mais il n'y a eu aucun moment où les gens ont vraiment adoré Dieu. Un long moment de musique, on a chanté, mais on n'a pas adoré. Après avoir chanté, on doit adorer. Et des fois, c'est des styles de musique où la personne ne sait même pas prier ou adorer Dieu pendant que vous chantez. Elle est obligée de vous suivre parce que c'est tellement de bruit qu'elle ne peut pas se concentrer en ce moment-là. Alors, une église vivante, locale, vivante, c'est un lieu où on vient adorer Dieu. Débarrassez-vous de matériel qui vous dérange s'il le faut. Battez les mains. N'allez pas à l'église sans que vous puissiez battre les mains au moment où c'est demandé. Lèvez les mains au moment où c'est demandé. Mettez vos genoux au sol. Personne ne viendra vous demander d'arrêter. Vous êtes là pour adorer Dieu. Première caractéristique, j'ai dit, c'est la simplicité à l'égard de Christ. Deuxième caractéristique, j'ai dit, louange puissante. Troisième caractéristique pour aujourd'hui, donc, c'est l'enseignement équilibré de la vérité. Une église vivante, c'est là où la parole de Dieu, la vérité est enseignée. Pas parce qu'on a lu un texte biblique ou qu'on a levé la Bible, qu'on a parlé, voilà ce qui est écrit. Mais parce que c'est enseigné, pas seulement prêché, enseigné. Une église n'est pas une campagne d'évangélisation. On vient à l'église pour grandir. N'allez pas dans une église où seulement chaque dimanche, c'est comme si on tournait en rond. Le message du salut doit trouver sa place dans chacune de nos réunions parce que des fois, quoi que ce soit des réunions, des dimanches, mais ce n'est pas toujours des enfants de Dieu qui viennent. Mais quand on vient à l'église, c'est pour grandir. On doit monter en enseignement. Ce n'est pas juste pour qu'on soit encouragé et dire amen au bon message qui édifie notre foi, mais on doit grandir avec un enseignement. La parole de Dieu doit se bâtir petit à petit. L'église locale, vivante, c'est l'église où on trouve l'enseignement. Soit-elle le dimanche, soit-il plutôt le dimanche, soit-il organisé dans un système, mais on doit être enseigné et de façon équilibrée. On va lire un texte dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 14 à 16. 2 Timothée 2, 14 à 16. C'est cela qu'il te faut rappeler sans cesse. Recommande solennellement devant Dieu d'éviter les disputes des mots. Elles ne servent à rien si ce n'est à la ruine de ceux qui les écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir devant son ouvrage. Parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. Évite les discours creux et contraire à la foi, ceux qui s'y adonnent s'éloigneront toujours plus de Dieu. La parole de Dieu, l'Église, ce n'est pas pour des discours creux. L'Église, ce n'est pas pour utiliser sa chair et bombarder les autres. L'Église, ce n'est pas pour juste raconter des racontards, des belles poésies. L'Église, c'est un endroit où on reçoit l'enseignement. Pas des discussions inutiles. Paul dit, éloigne-toi de ces choses-là. Concentre-toi à enseigner la vérité. Mais la vérité n'est pas seulement enseignée. La vérité est enseignée de façon équilibrée. C'est-à-dire, on enseigne la parole de Dieu, on fait grandir les disciples et on permet à chacun de prendre conscience de la part de Dieu et de la part de l'homme. On grandit, on comprend mieux la parole de Dieu, mais on sait que ça, c'est ce que Dieu doit faire, ça, c'est ce que l'homme doit faire, ça, c'est ce qui se passe dans le monde. Il y a de l'équilibre. Les choses sont claires. On ne fait pas porter à Dieu le fardeau de l'homme, on ne fait pas porter à l'homme le fardeau de Dieu. L'enseignement dans une église vivante, c'est l'enseignement où quand chacun quitte l'assemblée, sait qu'est-ce qu'il doit faire et sait ce qu'il doit attendre de Dieu. Chacun capable de se dire, « Seigneur, je m'attends à toi sur ça, parce que ça a été clair. » Et il est capable de dire, « Seigneur, aide-moi, voici ce que je dois faire. » On ne doit pas juste finir à la fin d'un culte comme ça les dimanches et ne pas savoir en quoi on est responsable. On est censé faire quoi? Après qu'on ait prêché, après qu'on ait dit tout ça, homme ou frère, qu'allons-nous faire? Comme disaient les premiers interlocuteurs des apôtres, qu'est-ce que moi je suis censé faire dans tout ça? Il ne s'agit pas de diluer la vérité, quand je parle d'équilibre ici, ou de satisfaire à quelques tendances humaines, des considérations humaines, ou de tordre le sens au profit de plus puissants, ou de prendre juste la tangente culturelle d'un peuple plutôt qu'à d'un autre. Non, l'équilibre ici, ce n'est pas diluer la parole de Dieu et la faire agénuer face à une culture puissante. Non, 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 mes amis. Il n'y a qu'une seule culture dans la maison de Dieu et dans la vie d'un disciple de Christ. C'est la culture de la parole de Dieu. D'où que l'on soit, quoi que l'on vive, de quel peuple que l'on sort, on est devenu enfant de Dieu. Notre culture est la culture du royaume. Et alors là, la vérité doit être enseignée telle qu'elle est. Qu'elle fasse mal, qu'elle corrige, qu'elle pointe quelqu'un individuellement sans qu'on ait besoin de dire son nom, sans qu'on ait besoin de montrer du doigt. Mais la vérité doit nous concerner. La parole de Dieu doit être véridique. Elle doit être enseignée. Quand vous allez à l'église, on doit vous enseigner la vérité et une vérité bien équilibrée. Pourquoi j'insiste sur l'équilibre? Parce que des fois, vous allez dans certaines assemblées et on enseigne, c'est fantastique, c'est merveilleux. On vous enseigne tout le jour que Jésus revient bientôt, c'est le message qu'on doit insister. Ce qui est la parole de Dieu. Mais si on ne vous rappelle pas que nous devons participer à ce retour-là, que notre responsabilité est de gagner les âmes, d'aimer les gens autour de nous comme Christ afin qu'ils voient cette bonne nature de Christ pour qu'ils donnent leur vie à Christ. Si on ne vous rappelle pas que pour un temps, Dieu a fait un peu de patience en train d'attendre jusqu'à ce qu'un grand nombre puisse s'allier à Christ. Si on ne vous rappelle pas qu'en fin de compte, vous devez manger, boire, vivre sur la terre ici parce que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Alors donc là, ça n'a pas été équilibré. Parce que les mêmes problèmes, les apôtres l'ont rencontré dans la Bible. Les Thessaloniciens, Jésus revient. Et ils oublient qu'ils devaient travailler, manger. L'équilibre, c'est vous montrer les priorités et les choses qui sont autour. L'équilibre, c'est vous mettre toute la liste. C'est vous montrer A et B. C'est vous montrer ce qui est éternel et ce qui est présent. C'est de vous montrer ce que Dieu attend de vous maintenant et pourquoi vous êtes à l'église pour toujours. L'équilibre de la parole de Dieu. Une parole, un enseignement équilibré, une louange puissante et la simplicité à l'égard de Christ, ce sont les trois choses qu'on a apprises aujourd'hui comme caractéristiques de l'Église vivante. Souvenez-vous, ces caractéristiques ne sont pas dans un certain ordre, surtout pas un ordre de priorité, et ce n'est pas une liste exhaustive. Vous voulez savoir si je veux parler de ce que vous aviez en tête? Ça, il faut qu'on se voie demain pour continuer cela. Entre-temps, let's teach. Grandissons ensemble.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.